bienvenue à ce nouveau petit cours d'histoire mondiale. Il s'agit du dernier cours de la saison 2 qui nous mène au tournant des années 1000 avant notre ère, alors que plusieurs changements s'opèrent, notamment autour de la mer Méditerranée. Catastrophes naturelles, conflits, invasions étrangères particulièrement dévastatrices font partie des facteurs qui contribuent à l'appellation d'un effondrement de l'âge du bronze, bien que le fer soit déjà très présent à cette époque. Il s'agit surtout d'une manière de parler, on pourrait dire, d'une ère de mutation et de transition dans le monde méditerranéen. Et pour bien terminer cette saison, bien parlons de la fin de la civilisation crétoise, de l'anéantissement des civilisations hittites et mycéniennes via le passage des peuples de la mer et brièvement de la montée de la dynastie Zhou en Chine. C'est parti! Retournons donc sur l'île de Crète pour nous intéresser à l'époque dite du Minoen récent, qui est aussi appelée Minoen tardif ou époque néopalatiale et postpalatiale, selon les chercheurs, les pays d'origine, les dates des livres que vous allez consulter aussi. Dans la tradition, on va dire peut-être francophone européenne, on parle encore souvent en fait de Minoen récent ou de Minoen tardif. On parle ici de l'âge d'or, l'apogée de la civilisation minoenne, civilisation crétoise. On est dans les années 1600-1450 pour l'instant avant notre ère. Et c'est quand même une période assez intéressante qui est surtout dévoilée par les fouilles archéologiques, parce qu'on est capable de voir en fait des phases de destruction, de grandes reconstructions et d'importantes destructions à nouveau qui vont vraiment mettre un terme en fait à cette civilisation en particulier, mais pas nécessairement à la vie sur l'île de Crète. Si on remonte en fait à la fin du Minoen moyen, on a eu un tremblement de terre là, qui va affecter la Crète. Il y a des grandes destructions partout sur l'île. On les voit aussi du côté de la fameuse île de Santorini qui fait partie en fait à l'époque là, des sites d'établissement majeur de la civilisation crétoise, et c'est associé à un tsunami aussi là, qui va apporter beaucoup de destruction d'une part, oui, mais très probablement, c'est ce qu'on estime, de bouleversements agricoles et donc commerciaux, économiques en même temps. Ce qu'on remarque cependant avec les découvertes archéologiques, c'est qu'il y a des reconstructions majeures après tout ça, donc ce qui nous mène à notre fameux Minoen récent, les palais qui sont à étages, dont on a déjà parlé dans un autre cours, sont encore plus grands, plus sophistiqués, et c'est ce qu'on peut appeler l'époque des grands palais crétois, des grands palais minoens. On s'aperçoit aussi que dès le début de cette époque-là, on parle à peu près des années 1600, on sent beaucoup plus les influences étrangères en Crète. On a un nouveau type de tombe qu'on appelle celle des guerriers, et ça, c'est assez, on va dire, oui, nouveau et particulier, parce qu'avant ça, comme l'île de Crète, bon, est une île, on n'a pas vraiment de fortifications. Ce sont en fait les bateaux qui assurent la surveillance des côtes. On trouve pas vraiment de tombeaux avec des armes non plus. Là, ça commence à émerger, en fait, pour la dernière période de la civilisation crétoise. Et on voit aussi qu'il semble y avoir des nouveaux liens là, qui vont se tisser avec le reste du monde méditerranéen, parce que là, on trouve vraiment beaucoup plus d'artefacts crétois ailleurs, du côté de Mycène, donc en Grèce continentale. On va en trouver beaucoup, entre autres, du côté de l'Égypte. Et là, vers 1500 à peu près, il y a déjà un premier palais qui est détruit, c'est le palais de Catozacro. On ne sait pas trop pourquoi. Est-ce que, les conséquences, on pourrait dire, agricoles, économiques et tout ça, qui ont suivi, en fait, l'éruption du volcan sur l'île de Santorini, ça fait partie des hypothèses. Mais, là, plus on avance dans le temps, les secteurs de Phaistos et Malia, qui étaient quand même des palais majeurs, en fait, de la civilisation crétoise, vont être détruits là, au cours de, les années 1450-1400, peut-être, avant notre ère. Knossos, lui, est toujours debout. Ça semble être le palais le principal, le plus important en fait, surtout du point de vue économique, et il semble donc exercer lui un rôle beaucoup plus accru en fait pendant la période du Minoen récent, mais il est détruit, et quand on dit détruit, c'est vraiment détruit, rasé en 1375 sans jamais être construit. Et là, comment on peut dire que ces palais-là ont été détruits, peut-être plus par l'homme que par des catastrophes naturelles? C'est sûr que quand vous avez un tsunami ou des tremblements de terre, la façon dont les bâtiments s'effondrent sont quand même assez précises. Quand ce sont en fait des gens qui vont détruire des bâtiments, entre autres avec des béliers, la façon dont les murs tombent, la façon dont les ruines, en fait, les vestiges sont placés, généralement, c'est quand même suffisant là, pour dire que c'est une destruction humaine. Et en ce qui concerne, en fait, Knossos en particulier, là, on sait que c'est l'humain qui le détruit, mais on n'est pas encore certain, en fait, de qu'est-ce qui a provoqué, en fait, toutes ces destructions. En fait, les historiens et les archéologues, il faut faut vraiment qu'ils travaillent ensemble, vont parler généralement d'un mélange de facteurs là, à la fois naturel et humain qui va mener, bon, à de nouvelles rivalités par rapport à l'accès aux richesses. Et ça, ça va créer des conflits qui étaient peut-être qui était autrefois inexistant, comme je vous disais, bon, les palais étaient pas fortifiés, il y avait pas vraiment d'armée, mais on sent là, que ça va probablement créer des conflits et entre les Crétois eux-mêmes. Et c'est ça qui a probablement affaibli la structure générale, on va dire, de la société. Et d'ailleurs, dans les dernières années, on a trouvé plus de tombeaux avec des gens qui portaient des armes. On a commencé à trouver aussi par la période qu'on pourrait dire du Minoen tardif ou du Minoen récent, des débuts de fortifications aussi, de murs de protection, ce qui nous montre qu'on veut se protéger de qui, ça c'est plus difficile à évaluer, mais il semble y avoir un conflit à l'interne au minimum. Et il faut dire que la montée en puissance de la civilisation mycénienne, qui n'est pas vraiment très très loin là, sur le continent, n'est pas à négliger parce que les Mycéniens, eux, vont exploiter l'affaiblissement de leurs anciens partenaires commerciaux par la suite. Chose certaine, les fouilles archéologiques nous démontrent qu'une majorité de sites, bon, minoéens, sont détruits ou abandonnés autour des années 1200 avant notre ère, même si on sait que la vie continue ensuite, mais elle continue de manière moins structurée, moins encadrée. En fait, ce n'est plus une société palatiale. Il n'y a plus rien de centré autour de palais. En fait, c'est la production agricole, notamment l'huile d'olive, qui semble être le moteur économique de l'île de Crète par la suite, qui va avoir une vie un peu plus pastorale, en fait. Et donc, retournons maintenant à la civilisation mycénienne qui, elle, va faire face à de nombreux défis et qui va connaître une fin encore plus brutale que celle de la civilisation crétoise. Autour des années 1400 avant notre ère, non seulement la civilisation mycénienne est bien établie et développée sur le Péloponnèse, mais aussi dans les Cyclades, et elle semble de plus en plus être bien ancrée dans ce qu'on appelle le commerce méditerranéen de l'époque. Il y a vraiment quand même des grands foyers, on va dire, politiques et économiques aussi autour de la mer Méditerranée lorsqu'on arrive vers les années 1400 avant notre ère. C'est difficile toutefois de pouvoir, on va dire, bien élaborer sur le sujet parce que nos sources sont vraiment rares et fragmentaires, et ça c'est vraiment dommage. Mais on sait qu'on retrouve quand même des objets mycéniens, surtout de la céramique, un peu partout en Europe centrale, et on va trouver de l'ambre de la Baltique à Mycène. Alors, ça nous montre quand même que les échanges commerciaux sont importants, ne serait-ce que du point de vue militaire, parce que Mycène, étant une civilisation beaucoup plus guerrière que la civilisation crétoise, a besoin de métaux. Et il y a une épave du 14e siècle avant notre ère qui a été découverte en 1982 au large des côtes turques. Puis les fouilles avaient révélé qu'elle transportait des matières très diversifiées comme des lingots de cuivre et d'étain, de l'ivoire, des bijoux, des disques de verre, et on se doute en fait que cette cargaison-là était en route vers les territoires mycéniens, peut-être probablement davantage du côté des Cyclades ou Chypre avant de sombrer. Donc le bateau ne s'est jamais rendu en fait là, sur la côte, on va dire, occidentale du bassin égéen. Et quand on arrive vers les années 1400-1300, on peut remarquer en fait qu'on a une phase de développement plus importante pour la civilisation mycénienne parce que c'est le développement de ce qu'on appelle les grands palais-forteresses qui vont ressembler beaucoup, beaucoup, beaucoup aux palais hittites. Et là, ici, on parle de sites archéologiques, si vous voulez aller voir des images, fouiller un peu de Tirynthe, Mycène, qui est quand même le plus connu, de Thèbes. Là, ici, on parle de Thèbes en Grèce, non pas de Thèbes en Égypte, de Iolcos. Ces sites ressemblent un petit peu à des villes fortifiées, on pourrait dire un peu. Le parallèle est très gros, mais un peu à des bourgs du Moyen-Âge, parce qu'on a des palais-forteresses qui sont entourés d'enceintes colossales, avec des murs de plusieurs mètres d'épaisseur parfois, avec des bastions de surveillance. Ils sont généralement situés sur des collines, donc c'est moins facile d'accès pour les assaillants et ça donne une meilleure vue d'ensemble. Et ça, c'est quelque chose qu'on a abordé pour la civilisation hittite. Et à Mycène, ben, les murs sont tellement impressionnants que les Grecs des époques ultérieures, entre autres pensées là, à l'époque classique, vont croire qu'ils avaient été construits par les cyclopes, qui sont ces géants à un œil, dont on parle entre autres dans l'Odyssée. Donc, on va parler d'une architecture cyclopéenne, parce que même les Grecs qui vont suivre en fait la civilisation mycénienne vont être impressionnés là, par le côté gigantesque en fait de toutes ces fortifications. Et pour réussir à pénétrer les murs, ben, on va avoir aussi des grosses portes qui vont être surmontées de bas-reliefs, de lions, de lionnes. Et la plus célèbre et celle qui reste debout s'appelle la Porte des Lions, qu'on pourrait davantage appeler des lions si on regarde un peu les images, qui ressemble beaucoup en fait à une autre porte d'entrée du côté de la civilisation hittite. Et donc, on a toutes ces fortifications qui entourent en fait le palais et les habitations. Le palais, il est à l'intérieur des murs et des fois, on a des villages entiers, d'où ce parallèle je le dis grossier, avec les bourgs médiévaux. Et on sait par la documentation, parce qu'on a quand même réussi, on sait lire en fait, entre autres, le linéaire B, que le cœur des palais-forteresses, l'endroit où on va discuter de politique, entre autres, s'appelle le Mégaron. Et ça, c'est une grande salle là, qui est formée d'une espèce de vestibule extérieur, d'un vestibule intérieur, de cette espèce de salle centrale qu'on pourrait appeler aussi la salle du trône. Et ça aussi, si vous tapez Mégaron mycénien, vous allez pouvoir voir là, quelques images de certains palais, comme celui en fait de Pylos. Je crois que c'est celui là, qu'on voit le mieux, parce que c'est un des mieux préservés aussi là, dans ce qu'on appelle le secteur de la Messénie en Grèce. Et derrière le Mégaron des palais, mais des fois aussi dans les sous-sols, on a ce qu'on appelle des appartements et surtout des magasins. Et à l'époque, magasin, non, ce n'est pas pour faire du shopping, ce n'est pas pour magasiner, c'est pour stocker en fait souvent les impôts, les taxes en nature et en objets que les paysans vont apporter pour les gens qui gèrent finalement le palais et la région. Et les fortifications aussi ben, nous laissent comprendre un important besoin de défense très différent là, de ce qui s'est passé du côté de la Crète. Il faut dire qu'on est sur le continent ou dans les Cyclades, mais c'est surtout sur dans le secteur du Péloponnèse et tout ce qui est la côte occidentale, en fait, du bassin Égéen, qu'on va voir les fortifications les plus importantes parce que c'est sûr que là, les attaques peuvent arriver de partout et on ne les verra pas nécessairement venir, d'où l'idée d'être sur des collines, d'où l'idée d'avoir des bastions de surveillance aussi. Et nos tablettes de linéaire B, pour celles qui ont été déchiffrées, parce qu'il en reste encore à déchiffrer, montrent une société qui va exercer quand même les mêmes types d'activités qu'on pourrait voir du côté un petit peu de la Crète. On fait un inventaire des ressources, c'est contrôlé par le palais, c'est contrôlé par les scribes, et on voit par contre l'aspect guerrier qui est partout. Donc, l'importance, en fait, des forgerons dans la société mycénienne, l'importance des métaux, d'un paiement aussi, des fois, en métal pour certaines personnes. Et l'aspect guerrier, bon, on va le voir sur la céramique, sur les fresques, et même, bon, aussi, oui, du point de vue de l'architecture, dans les armes aussi qu'on va trouver dans les nécropoles. Et on va commencer, des fois, à voir aussi des endroits là où il y a des traces de destruction, d'incendies, de reconstruction. Donc, on sait que pendant quand même l'époque importante, le 1400-1300, il y a eu quand même des conflits qui ont mené à des destructions et des incendies de sites. Et donc, ça fait un portrait un peu plus général de la société mycénienne entre 1400 et là, 1250, où là, ça va commencer à moins bien aller. On est plus capable de le faire, en fait, que pour la civilisation crétoise, qui nous a laissé très peu d'informations écrites sur comment elle était organisée, comment elle était gérée. Enfin, on n'est même pas certain politiquement si, je vous l'avais dit dans un autre cours, on a une monarchie ou peut-être plus une aristocratie, une oligarchie qui gérait, en fait, les palais du côté de l'île de Crète. C'est beaucoup plus clair grâce au texte en linéaire B du côté de la civilisation mycénienne, qui est une société hiérarchisée. Donc, on voit très bien que le roi est vraiment celui qui prend la majorité des décisions. C'est à lui, en fait, que revient de trancher sur peu importe les dossiers. Et la deuxième personne la plus importante, ben ici, c'est plus ou moins surprenant, c'est un commandant militaire et c'est l'aristocratie guerrière, en fait, qui va avoir le haut du pavé de la société mycénienne. Les scribes sont terriblement importants aussi dans cette espèce de hiérarchie parce que ce sont eux qui vont garder à l'écrit tout ce qui est taxes, impôts, tout ce qui est nécessaire aussi des fois pour de la construction. On va avoir des prêtres parce que oui, le monde religieux est là, le lien avec le divin, surtout avec les divinités, on va dire, associées aux éléments de la nature, le ciel, la terre, la mer. On va avoir des artisans, des ouvriers, mais comme je vous disais, les forgerons vont arriver quand même très très haut, presque au même niveau que les scribes et les prêtres ici, parce que leur rôle dans une société guerrière est terriblement important. Et en dessous, ben là, vous avez les paysans et les esclaves qui sont mentionnés. Alors, on sait que lorsqu'on gagne, en fait, un combat quelque part, il y a des gens qui sont pris, en fait, comme esclaves. Et ces esclaves ont dû participer à la construction de plusieurs des forteresses dont il reste trace aujourd'hui. Et donc, si vous voulez, bon, on va en reparler de ça quand on va faire notre saison 3, mais si vous voulez avoir peut-être une idée de ce à quoi aurait pu ressembler aussi l'organisation de la société mycénienne, étonnamment, l'Iliade d'Homère, qui, la façon dont elle dépeint en fait l'organisation des villages et tout ça, et peut-être un bon indice. On va y revenir, mais je laisse planer ça pour l'instant. Si on regarde du côté des arts, c'est sûr que là, bon, les Mycéniens sont beaucoup plus abstraits que les Crétois, là, qui nous ont fait des magnifiques fresques très détaillées, très paisibles aussi. On va plus avec des petites décorations florales, mais les vases sont plus stylisés. Il y a vraiment un style mycénien, en fait, du point de vue des vases, de tout ce qui est poterie. Et dans certaines tombes, ben là, on va avoir évidemment quelques fresques avec des scènes guerrières. Donc, si on fait de la fresque, c'est la guerre qui est mise en avant-plan. Et on sait que du point de vue de l'économie, bon, oui, l'agriculture, ça, c'est normal, arrive en premier plan, mais l'élevage, le bronze, donc la métallurgie, le filage du lin, de la laine pour les vêtements, sont quand même assez importants. Et en fait, les produits de la laine et du cuir semblent avoir été commercés par les Mycéniens aussi. Donc, leur surplus exportable, comme la laine, c'est quelque chose qu'ils vont exporter un peu partout en Méditerranée. On sait qu'ils ont probablement possédé des bateaux, peut-être même des flottes navales, mais on ne sait pas le nombre de bateaux et on ne semble pas être du tout dans une thalassocratie, donc une vraie domination des mers, contrairement en fait à la civilisation crétoise. Pour la religion, par contre, là, c'est vraiment intéressant parce que le Linéaire B nous a fourni des noms de dieux et de déesses et c'est là qu'on voit les traces du panthéon grec que vous connaissez aujourd'hui, ce qui, oui, nous confirme d'une certaine façon que les descendants des Mycéniens qui vont survivre aux destructions dont on va parler dans quelques instants vont être ceux qui vont donner naissance à la civilisation grecque que vous connaissez davantage. Alors, quand on regarde en fait les divinités qui nous sont mentionnées, ben, Zeus est là, Héra est là, Poséidon, notre dieu des mers, oui, Hermès est déjà là. Pas trop surprenant quand on voit l'importance en fait du commerce, donc peut-être pour les routes et tout ça. Et Dionysos, notre dieu de la fertilité, donc associé à l'agriculture, mais à la fertilité des sols, fertilité humaine, il est déjà là. Et on a même des divinités qui sont liées plus à l'univers terrestre, comme Hadès, ce qu'on appelle les divinités chthoniennes, donc liées vraiment à ce que la Terre nous donne ou nous prend aussi, et qui est très propre là, aux anciennes cultures de l'Antiquité. Par contre, on a pas vraiment de vestiges de lieux de culte très précis. Les destructions ont été peut-être trop importantes à cet égard-là. Et parlons-en maintenant de ces destructions, parce que là, on entre dans ce qu'on appelle la période de la fin du monde mycénien. Là, ici, on va jouer à peu près entre 1375-1200. Certains historiens vont plus aller jusqu'à 1100. Il y a des raisons là, pour que ça joue sur à peu près un siècle, parce que c'est sûr que les choses ne se terminent jamais vraiment de manière très directe, et ça dépend des secteurs aussi du monde mycénien. Donc, c'est pour ça que comme une espèce de jeu là, de peut-être un siècle là, ici là, en ce qui concerne la fin de ce monde mycénien. Mais donc, cette structure que je viens de vous décrire, sociale, qu'on connaît grâce au texte, tout ça va être brisé en fait. Les palais, les sites mycéniens vont être détruits de manière très violente, beaucoup plus violente en fait que ce qu'on a vu sur l'île de Crète. On va avoir une dépopulation de certains secteurs, pas partout, mais quand même des dépopulations assez importantes de plusieurs régions du bassin Égéen, de la côte ouest en particulier, et les traces archéologiques nous montre, c'est ça, des destructions massives avec des béliers, des incendies, tout ça. Et c'est sûr qu'avec la fin du monde mycénien, le fait qu'on va détruire des palais, forteresses en haut de collines et de falaises, ce qui est toujours aussi impressionnant, la connaissance de l'écriture disparaît aussi. Alors, avec la fin du monde crétois et la fin du monde mycénien, il n'y aura plus, en fait, de place là, pour, et de transmission, en fait, de l'écriture. Alors, on va vivre une période sans écritures dans le monde égéen qu'on appellera, et ça on va y revenir dans la saison 3, là, ce qu'on appelle les siècles obscurs. Et donc, il y a d'autres civilisations méditerranéennes qui sont affectées presque simultanément par ces destructions. Et on sait qu'il se passe quelque chose. On sait que ça se fait quand même sur une certaine période de temps et que ce sont des invasions au pluriel qui sont responsables de ces destructions-là. Et ça, c'est grâce au texte égyptien qui nous relate en fait des mouvements de population notoires et qui vont essayer d'attaquer en fait l'Égypte, surtout dans le nord du pays, donc près des côtes méditerranéennes, dans le secteur du Delta. Donc, on a plusieurs textes en fait, dont la stèle de Tanis qui va nous parler là, d'invasions qu'on connaît maintenant sous le nom des peuples de la mer. Donc, c'est l'égyptologue Gaston Maspero là, qui va, en traduisant un peu les textes égyptiens, arriver à cette espèce de mot fourre-tout, parce que les Égyptiens nous parlent de plusieurs clans et tribus qui vont venir les attaquer, qu'ils vont repousser. Le terme qu'ils utilisent le plus, ce sont les Akawash, mais ils vont parler aussi des Sherden, des Sheklesh ou des Lukapar. Et pour la prononciation, on ne sait pas vraiment si c'est exactement comme ça que ça se prononce. On sait donc que les invasions durent assez longtemps parce que les Égyptiens vont nous en parler sous trois règnes de pharaons successifs. Ramsès II vers la fin de son règne, son fils et successeur Meremta et Ramsès III. Et les trois vont combattre, en fait, remporter des combats maritimes contre ces populations-là. Et c'est pour ça, en fait, qu'on a des textes qui subsistent, que ce sont des victoires. L'Égypte protège son territoire et empêche les invasions sur le gros de son territoire. Donc, elle arrive à contrer, en fait, et à contenir aussi les invasions proches de ses côtes surtout, mais c'est pas le cas des autres. Parce qu'autour des années 1200, on peut parler là, de trois grandes civilisations dominantes en Méditerranée là, qui vont être affectées d'une façon ou d'une autre par les invasions. Donc, ou les Égyptiens, oui, au sud, mais vous avez donc les Hittites plus au nord, du côté de l'Anatolie, et les Mycéniens à l'ouest. Et la documentation égyptienne témoigne que les Mycéniens, les Hittites, mais aussi la société cananéenne, donc là, ici, on parle vraiment du couloir syro-palestinien, vont subir les ravages de ces envahisseurs particulièrement violents. Et l'état des ruines, entre autres, de la forteresse d'Attouza, là, qui est l'ancienne capitale hittite, ou le palais même de Mycène, qui était le plus gros des palais-forteresses, qui était érigé, comme je vous disais, au sommet d'une colline et très lourdement fortifié, bien, ça vient nous confirmer là, ces destructions commises par l'humain. Donc, on ne parle pas ici de tremblement de terre, on ne parle pas de catastrophes naturelles. Et en histoire ancienne, ben, l'épisode qu'on dit des peuples de la mer, ben, ça soulève beaucoup de questions parce qu'il existe une pléiade d'hypothèses, mais peu de réponses parce qu'on n'a pas vraiment beaucoup de textes ou de preuves archéologiques à l'exception de ce que nous disent les Égyptiens qui clament des victoires et qui semblent effectivement les avoir eues parce qu'ils ont été épargnés, contrairement aux Hittites et aux Mycéniens. Mais ça répond quand même pas aux questions qu'on a encore aujourd'hui et qui malheureusement, parce qu'on n'a pas beaucoup de réponses, des fois vont faire en sorte que des gens vont sur YouTube faire des espèces de documents. J'aime bien l'expression, où on se permet là, des fois des théories absolument loufoques par rapport à tout ça. Je vous dirais, faites attention, on manque cruellement de documentation pour parler des peuples de la mer parce qu'on se pose encore la question, d'où venaient-ils pour être capables comme ça de raser des palais-forteresses? Comment ont-ils pu attaquer, détruire, incendier successivement une majorité de cités majeures de la Méditerranée orientale parce que c'est vraiment ce qui se passe et qui vont mener à des abandons parce qu'il ne reste plus rien, en fait, donc les gens vont quitter. Et ça, c'est un grand mystère historique là, qui entoure les peuples de la mer et qui fait couler beaucoup d'encre, vous vous en doutez, depuis des décennies. Leur origine, ben donc, elle est débattue et abondamment, et on pourrait parler d'origine au pluriel, parce qu'il semble y avoir eu, dans les dernières peut-être vagues d'invasion, peut-être des gens de Léger qui se sont mélangés à ces clans-là. Peut-être même des Mycéniens, insatisfaits peut-être de leur situation, qui ont joint, en fait, des clans qui allaient vers des raids, parce qu'on parle essentiellement de raids destructeurs. On passe, on prend tout et on continue notre chemin. Et c'est ça qui fait que ça ne laisse pas de traces. Les gens ne s'établissent pas. Alors, on n'est pas capable de bien suivre ou de bien comprendre, même du point de vue de la culture matérielle, qui sont ces peuples de la mer. Alors, pour avoir les moyens de raser des cités, venait-il de l'Inde, où c'est une époque quand même si elle n'est pas abondamment documentée, où ça brasse, parce qu'on parle de principauté et tout ça. Est-ce qu'il était davantage des Troyens, donc on parle de la côte anatolienne, des ancêtres des Étrusques, des Philistins, ou même, comme je vous disais, la possibilité que des Mycéniens se soient joints à ces clans-là? Est-ce qu'il y a donc eu des coalitions entre certaines populations? Ce sont toutes des questions légitimes que vous allez voir, en fait, si vous faites un peu de recherche dans des articles scientifiques de qualité, bien sûr, sur le sujet, mais pour lesquels il y a très, très peu de réponses. Ont-ils vraiment quitté la Méditerranée après leur raid, comme ça semble être le cas? Ou est-ce qu'il y en a qui se seraient établis quelque part? Il y a des hypothèses qui appuient des établissements en Palestine et en Italie pour certains groupes, et qui pourraient expliquer d'ailleurs le développement par la suite de la civilisation étrusque. Mais il n'y a rien qui est certain. Là. Comme je vous dis, ce sont des hypothèses. Mais cette époque de bouleversement et de guerre qui conduisent à l'anéantissement, c'est quand même un mot important, de deux grandes civilisations méditerranéennes, en plus de déstabiliser par la suite les réseaux d'échange, bien, ça change l'histoire de la région et ça explique en partie pourquoi on va parler de la fin générale de l'âge du bronze, de l'effondrement de l'âge du bronze pour les années 1200-1000 environ, parce que là, ces grandes civilisations-là s'effondrent, le système palatial qui existait en Égée n'existera plus. C'est sûr que ça va amener aussi des changements au niveau politique dans les régions où les Hittites disparaissent, entre autres. Alors, c'est quand même des bouleversements majeurs. Et c'est un peu la raison pour laquelle on parle d'un effondrement de l'âge du bronze. Si on s'en va du côté de la Chine, ça brasse aussi. Donc après, en fait, la fin de la dynastie Shang, on va entrer dans une période quand même de conflit au départ, où on va avoir des gens qui vont essayer de prendre le contrôle au minimum du centre, en fait, du pays. Et c'est donc une période un peu plus complexe, mais qui va mener à l'émergence d'une nouvelle dynastie régnante vers la fin des années 1000 avant notre ère. Et c'est donc, quand on parlera de la Chine dans notre saison 3, de cette dynastie dont nous parlerons au départ, c'est la dynastie Zhou. Donc ici, c'est Z-H-O-U, et elle va se diviser en deux périodes. Donc, celle des Zhou de l'Ouest, qui va nous intéresser au départ, parce qu'elle commence en 1046 jusqu'en 771 avant notre ère. Et ensuite, on va avoir l'émergence plus de la dynastie des Zhou de l'Est. Et donc, on va les voir, comme je vous disais, plus en détail au cours de notre troisième saison, mais parce qu'on terminait avec les années 1000 pour notre saison 2, donc ça méritait là, une mention de dire que déjà là, vers la fin des années 1000, ben, il y a une nouvelle dynastie très intéressante en fait là, qui se met en place du côté de la Chine. Alors, notre saison 2 se termine avec cette fin, on va dire, générique de l'âge du bronze. Et le prochain épisode, eh bien, il va marquer le début de la saison 3, parce que là, on va partir des années 1000 et on va avancer comme ça, là, dans l'Antiquité un petit peu partout, avec des épisodes thématiques, je vous promets, là, qui vont nous permettre de sortir de l'Antiquité. Et pour en savoir plus sur les sujets de ce cours, je vous recommande entre autres Ancient Near Eastern History and Culture. Ça a été écrit par William H. Stiebing et Susan N. Helft, H-E-L-F-T. C'est paru chez Routledge. Ça reste quand même un livre intéressant. Là, si la fin de l'âge du bronze vous intéresse, la question des peuples amers aussi. En plus d'un dictionnaire, cette fois-ci, très détaillé et utile pour comprendre l'histoire ancienne, qui s'appelle le Dictionnaire de l'Antiquité, tout simplement. C'est sous la direction de Jean Leclan, et ça, c'est paru aux Presses universitaires de France. Ça existe en format poche, c'est sûr que c'est pas nécessairement donné, mais c'est, si vous avez un intérêt pour l'histoire ancienne, quand même un outil très intéressant à posséder, et la majorité des grandes bibliothèques, ben, l'ont aussi, si ça vous intéresse. Et si vous souhaitez suivre mes actualités en histoire et en archéologie sur les réseaux sociaux, n'oubliez pas que j'ai deux comptes Facebook, Evelyne Ferron, historienne, que plus je fais des choix, en fait, dans ce qui se passe dans l'actualité. Des fois, je fais des éphémérides, j'essaie d'en faire de plus en plus. Et j'ai mon fil d'actualité quotidienne, là, qui est la page Historiophile. Et je fais aussi des actualités avec mon compte personnel X, j'en fais presque plus, j'ai une ou deux par jour peut-être, mais c'est en fait sur Blue Sky là, que je fais l'essentiel maintenant là, de mon fil d'actualité. Et si vous appréciez ces cours d'histoire, ben, n'hésitez pas à laisser des étoiles sur les plateformes et à partager mes épisodes afin que d'autres personnes les découvrent. Et là, je vous dis à bientôt pour notre saison 3!